Clapotis et bienvenue dans cette série Clap Lexique qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit les textes que l'on vous proposera aux deux épreuves. Vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons donc nous intéresser au vocabulaire qui se réfère au genre romanesque. Dans ce premier épisode, nous allons voir tous ceux qui se réfèrent à l'analyse du récit. Et bien sûr, vous pourrez écouter l'épisode 2, lui qui sera plus consacré davantage à l'analyse du narrateur et du personnage. Alors le principe est toujours le même, comme les autres claps lexiques, vous avez l'infographie qui vous permettra de suivre petit à petit les termes, les mots que nous allons ensemble évoquer. Alors, commençons tout d'abord par ce que l'on appelle le fameux schéma narratif. Vous avez dû en entendre parler depuis votre longue carrière de collégien et lycéen, mais on le rappelle tout de même pour justement, lorsque vous allez analyser un extrait, que vous évoquiez le point clé où il se trouve. Le schéma narratif, c'est tout simplement ce qui va déterminer la structure du récit, et on va évoquer la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution, et la résolution justement de l'histoire. Alors la situation initiale, c'est tout simplement les moments qui, dans le roman, vont décrire la situation, vont présenter les personnages avant le début de l'action et qui vont justement permettre de fixer la quête du personnage. On y reviendra avec un autre mot-clé qui évoque effectivement le début du roman. L'élément perturbateur, c'est tout simplement ce qui va modifier l'équilibre initial et qui va déclencher le début d'une action singulière et qui va fixer la quête du personnage justement. Les péripéties, c'est tout simplement les actions qui vont faire avancer l'histoire, qui vont améliorer ou dégrader le sort du personnage principal, en l'occurrence le héros. Ensuite, l'élément de résolution, c'est un élément qui, dans l'action, va permettre de progressivement aller vers le dénouement final et va permettre au personnage d'aboutir à sa quête. Et puis la résolution, c'est la présentation du nouvel équilibre que va trouver le héros, les personnages, et qui indique qu'on arrive à la fin de l'histoire, qui peut être un échec ou une réussite. Voilà, donc ça c'est le premier terme assez simple que vous pourriez évoquer. Alors d'autres termes qui sont importants aussi, tout d'abord c'est l'analepse. Alors l'analepse, dans les techniques de récit, c'est le retour en arrière. Si on se réfère à des termes cinématographiques, c'est le fameux flashback. Mais privilégiez plutôt, vous, ce terme quand vous allez commenter un extrait de roman, hein, pour montrer encore une fois que vous êtes précis et que vous maîtrisiez bien le vocabulaire attendu. L'analepse, c'est donc un retour en arrière. Le récit va rapporter un épisode du passé plus ancien. Et c'est bien sûr l'objectif, hein, c'est de permettre au lecteur d'avoir des informations, de compléter les informations ou le vide d'informations qu'il avait auparavant. Et donc, le narrateur revient volontairement en arrière pour préciser certaines choses, pour apporter une compréhension par rapport à l'histoire, au parcours du personnage. Et puis, vous avez un autre terme qui va de pair avec celui-ci, qui s'appelle la prolepse. Alors, si on est logique, ici, pro, en avant, lepse, hein, ça vient de lapsus, glisser en latin. Une prolepse, c'est quand on va dans le récit se projeter dans le futur. Les prolepses dévoilent finalement la suite du récit ou une partie du récit. Alors elles sont rares, elles sont courtes et le but est de susciter la curiosité du lecteur, de créer un effet de suspense aussi ou de renforcer le tragique et l'intensité de l'histoire. Ensuite, un autre terme qui va toujours de pair avec ces techniques narratives, c'est l'ellipse. Alors l'ellipse, c'est lorsque ça consiste en quoi ? C'est lorsque vous allez, on va vous passer sous silence certains éléments de l'histoire, faire en sorte que finalement il y a une sorte de trou, de blanc dans la chronologie des événements. Et c'est vous qui allez combler le vide des informations créées par justement l'ellipse. Et c'est pareil, ça participe bien sûr de la dynamique du récit. Ensuite, un autre mot que vous pouvez aussi connaître, c'est ce que l'on appelle le topos, ou au pluriel, les topoi. C'est un terme grec qui, on pourrait le traduire de la façon suivante, quand on parle du topos littéraire, c'est un peu le motif. C'est un thème qui revient souvent dans les romans qui vont être incontournables, et souvent on dit qu'un auteur reprend le topos littéraire d'eux. Alors vous avez comme topos incontournable, par exemple la rencontre amoureuse, la scène de combat, vous avez cette sorte de réécriture que vont faire les romanciers, et pareil, ça va créer aussi, non pas du suspense, mais là, ça va permettre au lecteur de retrouver des thématiques incontournables. Donc, on parle pour la raison, c'est pour cette raison qu'on parle de topos littéraire. Et quand vous avez un extrait de roman que l'on vous donne aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, et que vous voyez que c'est effectivement une scène incontournable, comme la scène de la première rencontre, la scène du combat, la scène de l'aveu, eh bien, vous parlez à ce moment-là en disant que l'auteur utilise ici un topos littéraire bien connu. Voilà, donc ça c'est un terme qui n'est pas quand même inintéressant à connaître. Après, on va parler de l'intertextualité. Alors, c'est un mot qui peut vous paraître bizarre, compliqué. Inter entre textualité, c'est tout simplement lorsque vous avez un auteur qui va utiliser des références implicites ou explicites d'ailleurs, avec d'autres textes. Alors, ça peut être un petit clin d'œil à un autre auteur qui l'a précédé. Il fait un clin d'œil dans la façon, justement, par exemple, d'évoquer le topos littéraire. Ça peut être un clin d'œil en faisant des allusions à un genre ou un style propre à un autre romancier. Ça peut être un clin d'œil avec des citations. On peut utiliser à ce moment-là, le romancier va utiliser plutôt ce que l'on appelle une sorte de pastiche, c'est-à-dire qu'on va imiter le style d'un autre écrivain. Et dans ces cas-là, on va parler d'intertextualité. Alors ça peut être intéressant lorsque vous analysez un texte à l'écrit ou à l'oral et vous montrer comment un romancier a été influencé par un autre romancier qui l'a précédé. Ça peut être intéressant pour montrer aussi au correcteur, à l'examinateur, que vous avez une connaissance littéraire qui n'est pas que focalisée sur l'auteur en question, et que vous voyez que finalement la littérature est aussi souvent, parfois, une réécriture. On réécrit, ça peut être aussi en rendant hommage à des auteurs qui nous ont précédés. Voilà, donc intertextualité, ce sont les rapports implicites ou explicites qu'un texte entretient avec d'autres textes. Ce terme donc est à retenir et se prête dans des textes qui font justement ces parallèles. Ensuite, après ces termes-là, on va évoquer la description. Alors la description, c'est un moment qui est important dans le roman, et Dieu sait si parfois vous dites que les descriptions sont trop longues, c'est ennuyeux, il se passe rien, et pourtant, essayez de vous enlever un petit peu cette représentation justement de la description dans le roman. Elle peut avoir des fonctions, bien sûr, et constituer quelque part un instant important dans le roman. Alors, vous connaissez, et peut-être parce que vous l'avez étudié, les fameuses descriptions balzaciennes que vous trouvez parfois trop longues. Pourtant, la description constitue une pause dans le récit et peut avoir plusieurs fonctions. Alors, bien évidemment, la première fonction, c'est la fonction informative, c'est-à-dire elle va donner des informations nécessaires, voire supplémentaires, sur le cadre de l'action, sur le personnage, et c'est sa première fonction. Et dites-vous que avant que apparaisse la photographie, le romancier utilisait beaucoup la description, en ce sens qu'il faisait des descriptions longues, parce que n'ayant pas cette possibilité de voir par le biais de la photographie, il fallait bien laisser le lecteur s'imaginer un cadre, d'où les extrêmes précisions avant que ne démarre l'histoire. Donc la description a souvent une fonction informative. Elle a donc par conséquent, ça va de pair, une fonction aussi réaliste. Elle permet de créer un effet de réel et d'ancrer le récit dans une réalité qui peut être sociale, historique. Et donc ça, c'est pareil, ça permet aussi au lecteur de rentrer davantage dans l'histoire. Après, la fonction informative réaliste, elle peut avoir aussi une fonction symbolique, en ce sens qu'elle va révéler un élément caché, important de l'histoire, et ça, il faut que le lecteur justement décode et en perçoive le sens. Alors ça peut être la description par exemple d'un personnage par le biais de sa tenue, de sa façon d'être habillé, et donc à ce moment-là, la description vestimentaire prend une fonction symbolique. Et elle peut aussi avoir une fonction argumentative, en ce sens que, en décrivant, par exemple, le narrateur peut exprimer un jugement de valeur sur la situation, sur les personnages, et la description peut effectivement permettre de dénoncer ou au contraire de faire l'éloge d'un personnage, d'une situation, d'un environnement. Et donc, vous voyez bien que la description peut avoir plusieurs fonctions qui ne sont pas à négliger, ne serait-ce que pour permettre votre analyse précise du texte. Les derniers éléments qu'on va évoquer, qui sont aussi importants, c'est l'ouverture et la clôture du récit. Et donc là, vous avez deux termes à retenir, ce que l'on appelle l'incipit et l'excipit. Alors l'incipit, ça vient d'un mot latin, incipio, je débute, je commence. Donc tout simplement, l'incipit, ce sont les premières pages, les premières lignes du roman, qui a pour but, bien sûr, de capter l'attention du lecteur et de faire en sorte qu'il va rentrer tout de suite dans l'histoire. On distingue différents types d'incipit, et on peut vous donner à l'écrit et à l'oral ces types de début de récit. On a l'incipit in medias res, c'est un terme latin qui veut dire au milieu de la chose, au milieu de l'histoire, et vous avez à ce moment-là l'impression lecteur de rentrer dans une histoire qui a déjà commencé. Ça, vous le retrouvez aussi, pour vous en souvenir, très souvent dans les techniques cinématographiques. La première scène, par exemple, c'est une scène de meurtre. On voit la victime étalée par terre, du sang partout. Et puis, on comprend qu'on a affaire, bien sûr, à les autres personnages vont être les policiers, etc. Et donc, ça permet d'être au milieu de l'histoire. Bien sûr, il s'est passé quelque chose de tragique avant que l'on découvre l'histoire. Et ça a pour but de susciter l'intérêt. Pourquoi ? Tout simplement se dire qui a été tué déjà, pour quelle raison, et comment va se dérouler ensuite l'intrigue. Donc cette technique est très souvent utilisée pour capter cette attention. L'incipit statique, comme son nom l'indique, quelque part c'est statique parce qu'il ne se passe rien et parce qu'on va avant tout privilégier la description du cadre, de l'environnement, des personnages, pour que vous ayez justement cet effet réaliste et que vous arriviez à photographier le lieu, les personnages qui vont ensuite permettre le déroulement de l'intrigue. Vous en doutez, si vous faites un rapport avec l'histoire littéraire, l'incipit statique, vous l'avez très souvent, notamment dans les récits du 19e siècle, ce que vous adorez, les romans balzaciens, vous avez ces pages qui vont vous permettre d'avoir ce décor qui petit à petit se dresse sous vos yeux. Et puis on a l'incipit progressif qui lui est un mélange d'action et de description, vous donne au fur et à mesure des informations, des éléments qui vont vous permettre de remplir le vide narratif qui est au début de l'histoire. Et donc vous allez comprendre que ça se passe à telle époque, c'est tel personnage, de tel cadre, de tel contexte historique, littéraire, social. Donc ça vous permet de plonger petit à petit de façon progressive dans l'histoire. Donc l'incipit, vous comprenez, c'est un moment clé qui va permettre justement de faire en sorte que le lecteur va rentrer de façon efficace dans l'intrigue. Et puis, à l'inverse, si on peut dire comme ça, vous avez le début du roman, vous avez la fin du roman, l'excipit, c'est-à-dire on sort de l'histoire et il marque cet excipit, l'aboutissement du récit, de la quête du héros éventuellement, et il a pour but de fixer le sort des personnages et de donner du sens à l'œuvre. On clôt l'histoire, on referme le livre et on retient telle ou telle chose des personnages, telle ou telle morale, tel ou tel sens éventuel. Mais attention, parfois l'excipit peut avoir ce qu'on appelle une fin ouverte, c'est-à-dire que l'histoire se termine sans se terminer. Alors il y en a qui adorent ce principe-là, il y en a qui détestent parce qu'ils restent sur leur fin, comme on dit. Et cette technique de fin ouverte est souvent utilisée par les romanciers dans une, bien sûr, stratégie bien particulière pour que le lecteur, finalement, aboutisse à ses propres conclusions, imagine lui-même l'avenir des personnages. Et donc, ça permet aussi, c'est une technique qui permet de finir sans finir et donc peut-être de créer aussi un effet d'attente pour peut-être une suite éventuelle. Voilà, donc dans ce premier épisode, vous avez découvert ou revu les termes qui se réfèrent sensiblement à tout ce qui est propre à l'analyse du récit. Essayez de les utiliser à propos dans vos analyses orales ou écrites pour bien montrer au correcteur ou à l'examinateur que vous maîtrisez tous ces termes qui sont attendus à la fin d'un cursus de première. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour la suite, c'est-à-dire l'épisode 2 centré sur le narrateur et les personnages, ou bien vous pouvez aller gambader dans d'autres épisodes de Clap Lexique, ou d'autres séries bien sûr de Clapotis. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.